Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion du colloque « Éthique des médias, de l'information au marché » tenu à Montréal en avril 2009. Welcome to the audio podcast of the Media Ethics from Information to Markets Conference that took place in Montreal in April 2009.
Notre prochain conférencier est Marc Raboy de l'Université McGill qui présentera une conférence intitulée « The Ethical Foundations of Media Policy ». Donc, Marc Raboy est premièrement un ancien journaliste and now a full professor of Beaverbrook and also a Beaverbrook chair in ethics, media and communications in the Department of Art History and Communication Studies at McGill University. He is the author of or editor of 16 books and more than 100 journal articles or book chapters, as well as reports for such organizations as the World Bank, the UNESCO, and also the le ministère québécois de la culture et des communications. He is also a founding member of an international advocacy campaign for communication rights in the information society. His current research looks at media and communication governance issues in light increasing globalization. Il a également enseigné à l'Université de Montréal et l'Université Laval.
Merci, Pierre-Yves. I have to say that I'm never quite sure what language to speak when I'm speaking in Montreal, which I frequently do. But a rule of thumb that I tend to apply is when in Rome. And that means that at l'Université de Montréal, I tend to speak in French. I'd be very happy to take questions and comments in English and afterwards. And in fact, if anyone feels to be so bold, the first question could be, what did you say? Dans les sociétés contemporaines, les médias sont les institutions fondamentales de l'espace public. Les médias font plus que transmettre de l'information des émetteurs envers les récepteurs. Ils la mettent en contexte, fournissant ainsi au public une grille de lecture de la réalité sociale dans laquelle notre monde évolue. Par ce fait, la qualité de vie démocratique dépend en grande mesure de la façon dont les médias arrivent à s'acquitter de leurs fonctions. En influençant les attitudes et les comportements, les médias transforment la manière dont les citoyens arrivent à s'insérer dans la vie sociale, politique et culturelle. La mission démocratique des médias, donc, implique la préparation de toutes les couches de la population à la pleine participation dans la vie quotidienne. En tant que véritable école, les médias auraient un rôle éducatif essentiel à jouer, non pas dans le sens didactique, mais en identifiant et en présentant les enjeux sociaux et politiques dans une perspective d'outillage civique. Or, ceci dit, on fait remarquer depuis de nombreuses années déjà que malgré des progrès insoupçonnés, il y a encore peu de temps sur le plan technique, malgré la multiplicité sans précédent des contenants médiatiques, bref, malgré l'abondance de l'information à laquelle le citoyen a désormais accès, le traitement médiatique de cette information fait en sorte que les médias ont de plus en plus du mal à réaliser leur mission démocratique. Ceci est un phénomène global et mondial, mais il se manifeste d'une façon tout à fait particulière dans des contextes locaux. Et dans ma communication ce matin, je vais mettre l'emphase sur des éléments qui sont particuliers au Québec et au Canada. Je vais aussi, pendant les prochaines minutes, faire rappeler quelques antécédents historiques de cette situation que je trouve sont pertinents à la discussion qu'on a ce matin. En fait, la plus ancienne des médias contemporains d'information, la presse, n'existait même pas à l'époque de la colonie française au Canada. La presse québécoise est née dans le sillage de la Révolution américaine. Et un de nos premiers patrons de presse, Fleury Méplet, était un imprimeur d'origine lyonnaise qui a été envoyé ici par Benjamin Franklin pour susciter un peu de l'opposition au nouveau régime britannique. Et la Gazette de Méplet, qui est l'antécédent de la Montreal Gazette de Canwest aujourd'hui, la Gazette de Méplet était bannie par le gouverneur britannique du Bas-Canada et Méplet lui-même était incarcéré. Et avec cela, a terminé une aventure extrêmement riche en ironie et en enseignement historique pour ce que ça nous ce que cela nous dit à propos des origines paradoxales des médias canadiens et québécois, aux agendas politiques qui soutenaient la création de ces médias, à leur rôle dans la construction de la démocratie, aux efforts gouvernementaux de les influencer et aux particularités de notre ou de nos questions nationales, sans parler de la manière dont les Canadiens et les Québécois sont venus à comprendre la notion fondamentale des droits humains qui est le droit de communiquer. Je n'arrive pas à lire mon écriture. C'est donc la première d'une longue série de paradoxes qui caractérise le rapport et l'évolution du rapport entre les médias et la démocratie. Un rapport qui est traversé par toute une série de contradictions et des tensions entre les médias autonomes et locaux, les médias étrangers, l'importance de la question nationale que j'ai soulignée, l'omniprésence, même si parfois discrète, de l'État dans ce décor. Il faut se rappeler également qu'une presse importante dite d'opinion a occupé une place importante dans les courants de démocratisation du 19e siècle. Et selon un recensement fait par des historiens de l'Université Laval, Hamelin et Beaulieu, entre 1805 et 1838, il se fut créé 104 journaux au Québec. Pensez-y, 104 journaux créés au Québec dans les premières décennies du 19e siècle. Bon, aujourd'hui, on a quoi, une douzaine. Donc, l'époque où la presse était à ses premiers balbutiements était en quelque sorte, c'était une période, une parmi plusieurs périodes qui ressemble à la période dans laquelle on vit actuellement, où il y a une nouvelle technologie, des nouvelles possibilités qui se sont présentées et les gens ont pris ça en main. Ont pris la communication en main pour créer des instruments de discussion, d'échange, de politisation, de mobilisation, ainsi de suite. Mais le rôle de cette presse a changé de manière dramatique quelques décennies plus tard à peine, avec les transformations sociales qui étaient l'industrialisation, l'urbanisation, l'alphabétisation, qui ont fait en sorte que, bon, des entrepreneurs ont trouvé que, voilà, c'est une manière non seulement de véhiculer des idées, mais aussi de faire du fric. Et donc, on a vu apparaître vers la fin du 19e siècle la naissance de la grande presse populaire et commerciale. Et la vocation de la presse a complètement changé à ce moment-là. C'est la période caractérisée par ce que Habermas a nommé la transformation de l'espace public. Et à ce moment-là a paru un autre paradoxe avec lequel on vit encore de manière criante aujourd'hui, que désormais accessible à un très vaste public, donc plus démocratique, la presse est devenue une marchandise. Et cette marchandisation s'accompagne d'une banalisation de contenu de telle manière que le média lui-même devient plus un objet de consommation que de support à l'intervention sociopolitique. Et l'histoire de la presse depuis cette période-là continue un peu dans cette filiation. Malgré cela, il y a lieu de remarquer que le Québec, à l'époque, se distingue aussi par un nouveau phénomène qu'on a nommé à l'époque les journaux de combat, que plus tard on nommerait des médias alternatifs, qu'aujourd'hui on appellerait le journalisme citoyen ou ce que vous voulez, ou encore une fois où des couches sociales s'approprient les moyens de communication disponibles pour faire un peu contrepoids à cette colonisation, si vous voulez, des grands médias par les forces commerciales et politiques dominantes. Et c'est un autre courant historique qui continue jusqu'à nos jours, évidemment, avec les distinctions qu'on connaît entre les différentes technologies de communication. Maintenant, un moment important à souligner, c'est le moment de la parution de la radiodiffusion dans les années 1920, la radio. Au Canada, l'implantation de la radio a été au départ strictement laissée à l'entreprise privée. C'était un phénomène ce sont des entrepreneurs, des marchands de journaux, des marchands d'appareils de réception qui ont lancé les premières stations de radio. Mais très rapidement, il y a eu reconnaissance que la radio était un outil de développement socioculturel et éducatif important, et l'État décide donc d'investir massivement le secteur de la radio. Et depuis les 1930, on a cette intervention de l'État dans la radiodiffusion qui a créé la Société Radio-Canada, qui a aussi soulevé un débat public important concernant l'avenir de ce média qui était la radio. Est-ce que ça devrait être complètement laissé au public, ou est-ce qu'on devrait avoir un système mixte? Enfin, vous connaissez la suite de l'histoire. Et on a au Canada aujourd'hui, et c'est ça, c'est un point de distinction très important avec nos voisins du Sud notamment, le fait qu'on a ce système un peu hybride public-privé en radiodiffusion. Mais ce que je veux souligner par rapport à ça, c'est que ce n'était pas quelque chose qui était pris par acquis au départ. Comme j'ai dit, au départ, c'était le privé. Il y a eu un courant extrêmement important pour que ça devienne uniquement un secteur public. Et c'était grâce à des débats et même, je dirais, même des luttes politiques que le système qu'on a aujourd'hui a évolué de la manière dont on connaît. Quand la télévision est arrivée dans les années 50, c'était un peu l'inverse. Au début, la télévision au Canada, c'était un monopole du public. C'était le Parlement et le gouvernement canadien, au début des années 50, a jugé que la Société Radio-Canada devrait avoir un monopole sur l'implantation de la télévision au Canada. Et c'était comme ça pendant les 10 premières années. Et c'est seulement au début des années 60, grâce à la pression des lobbies privés, avec l'élection d'un gouvernement conservateur à l'époque, qu'on a eu introduction des services commerciaux dans la télévision. Alors on voit un peu une histoire différente. Le cours d'histoire aurait pu être différent, mais c'est comme ça. C'est avec ça qu'on vit aujourd'hui. Bon, en résumé, donc, je pense que c'est important de souligner qu'il y a eu trois tensions essentielles dans cette histoire de la radiodiffusion au Canada et au Québec, qui sont encore importantes. Ça fait toujours partie de notre environnement médiatique. C'est la tension entre le public et le privé qui devrait être la force motrice de ce secteur médiatique. Tension entre entre le centre et la périphérie qui se manifestent de différentes manières, entre autres, dans notre situation canadienne, en temps de juridiction entre Ottawa et les provinces, notamment le Québec, qui réclament des pouvoirs de juridiction sur le secteur étatique, sur la réglementation, ainsi de suite, et qui est une tension qui est un peu moins présente aujourd'hui, mais qui risque de revenir à tout moment compte tenu de l'évolution de la situation politique. Et aussi la tension entre le local et le mondial qui se manifeste historiquement en tant que tension entre le Canada et les États-Unis, si vous voulez. Il y a une citation formidable d'un des grands animateurs de la Ligue canadienne de la radio des années 30, Graham Spry, qui était considéré un des pères fondateurs de Radio-Canada, qui a dit devant un comité parlementaire à un moment donné, « You have a choice to make, and it's a choice between the state and the United States. And that's kind of the way thinking went in this country, certainly for a long period of time. And that was one of the strongest arguments for massive public involvement in the broadcasting sector, was to say that if we want to have Canadian broadcasting at all, there's going to have to be a strong role for the state. Bien, alors ce très bref, mais je crois nécessaire, survol historique illustre le mariage difficile entre économie et politique qui caractérise les grandes lignes du développement du système des médias. Et depuis le début des années 80, et aujourd'hui de façon de plus en plus remarquable, et les présentations qu'on a entendues déjà ce matin y témoignent, les considérations d'ordre économique et industriel ont préséance sur les besoins sociopolitiques et culturels des médias. Et la diversification des médias à laquelle on assiste de nos jours est caractérisée notamment par le contexte de marchandisation dans lequel elle a lieu. On voit ça dans tous les secteurs médiatiques, y compris celui des nouveaux médias. Alors que, en ce qui concerne les nouveaux médias, il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Personne ne sait comment ce secteur va évoluer. Mais si l'histoire peut nous enseigner quelque chose, c'est de penser au secteur médiatique comme un terrain de contestation, comme un enjeu social et politique contesté. Et c'est ça qu'on aperçoit quand on essaie de comprendre ce qui est en train de se produire dans le secteur des nouveaux médias. Les débats concernant la neutralité technologique, concernant qui devrait le financer, concernant l'accès, concernant l'exercice des rapports de pouvoir. Est-ce que l'État devrait être présent ou non dans ce secteur? Et qu'est-ce que tout cela veut dire pour les publics des médias que nous sommes, pour les citoyens? Le situationniste français Guy Debord a déjà dit que la communication mass-médiatique consiste justement en le règne autocratique de l'économie marchande ayant accédé à un statut de souveraineté irresponsable. Nous sommes beaucoup trop polis pour parler dans ces termes-là, mais je crois que c'est comme cela qu'on devrait voir la situation et essayer de trouver des réponses, des solutions, des pistes de rechange ayant cette perspective-là. Un économiste canadien célèbre, Dallas Smythe, dans un ouvrage monumental publié au début des années 80, a développé la notion de l'auditoire médiatique en tant que produit marchand, the audience commodity. Et sa grande contribution était de faire comprendre que le produit des médias, ce n'est pas les contenus qui sont véhiculés, c'est nous. Nous sommes le produit médiatique. C'est nous qui sommes vendus à des idéologues, à des gens qui ont, des entreprises plutôt, qui ont quelque chose à vendre. Donc, c'est la logique marchande fait en sorte que les médias se trouvent contraints à concevoir des stratégies de communication qui vont à contresens avec ce qu'on considère comme étant ou comme devant être leur mission démocratique. Et la crise actuelle en témoigne. Enfin, la contribution des médias à la vie démocratique de la société qui les accueille passe premièrement par la démocratisation des médias eux-mêmes. Il me reste encore 2 minutes, mais je pense que je devrais terminer là, sinon je vais continuer à me perdre dans mes notes. Alors, ça me ferait plaisir de prendre vos questions. Merci.
Oui, bonjour. Alexandre Boulris, du Syndicat canadien de la fonction publique. Un commentaire en premier, ensuite de ça, une question. Mon commentaire, un peu pour aller dans le sens de l'économiste canadien que vous avez cité, là, qui était l'audience devient une marchandise. Il y a 2 ans à peu près, le PDG de TF1 en France avait dit que son travail principal consistait à vendre du temps d'antenne, du temps de cerveau disponible à Pepsi. Et quand les gens, non seulement le font, mais l'admettent, mais le déclarent publiquement, on se rend compte à quel point, effectivement, quand on achète un journal, on n'achète pas du contenu, mais on est acheté par les publicitaires qui investissent dans ce journal-là ou dans ce média-là. Alors, dans ce sens-là. Deuxièmement, j'aimerais ça que vous parliez un peu plus de la démocratisation des médias. Qu'est-ce que vous entendez par là? Un rôle plus actif de la part des citoyens, des investissements publics, des subventions du gouvernement, dans quel sens? Et dans l'aspect du débat démocratique, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager des règles qui existent, entre autres, en France? Je trouve ça particulièrement intéressant. Par exemple, lors des élections présidentielles, les médias sont obligés de donner un temps d'antenne égal à tous les candidats et candidates. Et ça force un débat démocratique public beaucoup plus vigoureux que ce qu'on peut avoir ici au Québec ou au Canada. Et l'autre aspect du modèle français que j'aime bien, c'est avoir des médias qui ne cachent pas leur parti pris. Et parce que je trouve que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus franc, puis beaucoup plus honnête. Quand on achetait l'Humanité, on achetait le journal du Parti communiste. Quand on achetait Libération, c'était le journal du Parti socialiste. Puis quand on achetait le Figaro, c'était le journal du RPR, maintenant aujourd'hui l'UMP. Au moins, le citoyen, quand il achète le journal, le média, il sait exactement à quoi s'en tenir. Le Monde, je ne sais pas, il navigue un peu, François Bayrou peut-être. Alors voilà, c'était un peu ma question avec le modèle français.
Merci. En fait, il y a toute une partie de ma communication que j'ai laissé tomber juste à la dernière minute compte tenu du temps, mais qui est évoquée un peu dans le résumé que j'ai. Est-ce que les résumés sont publiés? Are the abstracts published?
Somewhere.
Well, anyway, le rôle. Je pense qu'il faut revaloriser la notion des politiques publiques par rapport aux médias. C'est là toute la notion de ce que Anne-Marie Gingras appelait la régulation des médias, l'idée de l'intervention de l'État. L'intervention de l'État, ça ne devrait pas être perçu comme un dernier recours. Ça devrait être perçu sur le même plan qu'on pense. Personne ne met en question l'idée que l'État devrait intervenir dans le secteur de l'éducation ou dans le secteur de la santé, même si on a des débats assez vivants sur la nature de cette intervention et jusqu'où ça devrait aller. Alors, par rapport aux médias, on n'a pas la même notion. Prenons un autre parallèle avec l'environnement. Il y a 30 ans, c'était juste quelques personnes isolées qui pensaient à l'environnement. L'État n'y pensait pas du tout. Aujourd'hui, il n'y a aucune intervention publique importante qui ne tient pas compte de l'aspect de son impact sur l'environnement. Il faut qu'on arrive à considérer le secteur des médias comme un secteur fondamentalement important pour l'évolution de la société. Et ensuite, on pourrait commencer à chercher et à trouver des solutions au genre de problèmes qu'on a identifiés. Et on a déjà des instruments importants dans ce sens. Au Canada, il y a une loi très intéressante, la loi sur la radiodiffusion, qui précise que la radiodiffusion au Canada est un service public composé des secteurs publics, privés, communautaires, etc., etc., etc. Donc, on ne pense pas, on n'a pas tendance à penser au secteur dans son ensemble comme un service public. Et pourtant, c'est là dans la loi. Alors, si on arrivait à faire rappeler cette réalité législative ou régulataire qui est que la radio, la télévision, bon, Internet, point d'interrogation, est-ce que c'est couvert par ça? Bon, c'est un peu une zone grise encore jusqu'à présent. Mais si on pensait aux médias comme étant d'abord un service public avec des activités commerciales tout à fait légitimes, etc., mais pas comme, comme force motrice de fond. Déjà, ce serait un changement fondamental dans la manière de s'adresser à ces questions-là. On pourrait donner des exemples plus précis, si vous voulez, des moyens de démocratisation. Ouais.
I just want to push you a bit. I guess, sorry if I misunderstood you. Is it your position that the public interest is only, or at least best served by public ownership of the mass media?
If you want to really pin me down and dig deeply, I would say yes. Now, this is an ideal. You know, I'm not. You know, I know we have. You know, we have private. We have privately owned media, and I'm not saying that they're all rotten, et cetera, et cetera. You know, if we had to go back and reinvent a media system, I would try to invent a different model than the one we have today.
Good. Okay, that's good because I'd actually like to know because I actually like the CBC quite a bit, but one of the worries I have about it is the funding model that it has. And I wonder, because I think while I appreciate the arguments in favor of public ownership of the mass media and the virtues it has, I think it's hard to deny that the current funding model puts the CBC in a position in which it's subject to a great deal of government pressure.
Yes.
And I'll give just one example. I mean, we don't have to like list them, but shortly before Christmas, a Canadian diplomat named Robert Fowler and his aide Louis Guy were kidnapped in Niger. How many people here know that? Right. Well, you wouldn't know it if you only listened or watched the CBC. And the reason is the CBC, for a long time, reporters were forbidden from reporting on it. And the reason why was because the government was leaning on them very heavily not to talk about it. Because they didn't want to put Louis Guy and Robert Fowler in any sort of danger by reporting on the facts of their disappearance, the facts of their lives, the things they might have done. And the government was able to lean on the CBC about that because they extracted a quid pro quo earlier last year when Melissa Fung, the journalist, was kidnapped in Afghanistan. The government worked like crazy to get her free. And the quid pro quo they extracted from the CBC was, well, look, we got some government guys, so don't you report on it. So last winter, I was doing interviews with CBC Quebec City, because Louis Guy has family in Quebec City, I was doing interviews from my desk in Ottawa telling them what was going on. I was basically reading the AFP, Agence France-Presse, wire to the journalists in Quebec City so that they could tell their listeners what was happening with Louis Guy and Rob Fowler. Now, you can ask the question about whether the public interest is served by having the facts of their disappearance noted. But the fact remains, you would not know it if you listened to CBC. And There are, I've seen a few mentions of it on CBC websites. They seem to be loosening up a bit on this, but for a very long time. So anyway, that's the example, right? And is that a funding model problem, or is that something deeper about public ownership?
Well, what I'm sure there are people in this room who could come up with examples of private sector media owners putting pressure on editors, et cetera. Yeah. No, I think really, if we want to talk about like designing a model media system, I would like to see a range of publicly owned, not for profit, community based, and owned media, national, local, global. I mean, we're dealing now with global media. With which, where are the levers of control on those? I think there are lots of problems with the funding model of the CBC. I mean, I'd much prefer something like the BBC's funding model, which is different because it's funded by a license fee rather than an annual parliamentary grant. I mean, the British Parliament sets the license fee every 5 or 7 years, I think, and then there's a charter. The BBC is governed by a charter that is an act of Parliament, which is reviewed every 10 years, and that's it. And then they're much more. The principle of arm's length is not subject to annual negotiation and renegotiation and quid pro quos, like you say, but there's a range of possible models. And the other thing, I think what makes it difficult when we look at the situation, if you look at what I said and say, well, but the CBC does this, and is that really what we want? I mean, that's a different level of discussion, because I mean, I actually, what I would like to see, and I've written about this over the years, I would like to see, as I say, a range of media controlled by different, nationally, locally, regionally, with more direct citizen participation, and so on, different funding sources. I mean, the point is, there is revenue to be made. There's a lot of money circulating in the system. Why, by what kind of natural right did we ordain that this should be, that profits should be extracted out of the media system, distributed to private shareholders the way they would if we were talking about shoe manufacturing or something? It doesn't have to be that way. I mean, you could have, for example, there's no reason why, historically, why we couldn't have had a public corporation separate from the CBC whose job was to go and buy the rights for distribution in Canada to the most popular American programs. By setting it up the way we did, we have, we've created, private broadcasters whose main raison d'etre, let's face it, their raison d'etre is to be profit-making institutions and distribute profits to shareholders. The best and quickest way to make the most money in Canadian broadcasting is to buy the rights, cheap rights, to American programs and put them on the air. Why does it have to be? I mean, where is the added value to Canadians for that? I mean, Canadians want to watch American programs. There's profit to be made in American programs. Let that profit be used to fund some of the things that can't be funded. But I mean, we don't have the structure for doing that the way the system.
Sorry to push the point. Isn't the structure taxing those corporations' profits and funneling it into government revenues, which then is used to fund the CBC? I mean, isn't that sort of what you do?
Yeah, you're taxing the revenues of those corporations, and the tax revenues go into general revenues. They're not necessarily. There's a complete separation there because you're taxing them as businesses, not as media businesses. You're taxing them as businesses. The revenue goes into wherever revenues go, and then it's spent on whatever the government decides it has to spend money on. Which is not what I was saying. I mean, I was saying if you looked at the media system as a bubble in which people are spending money, and money is circulating, and profits are being made, and and part of that sector is not and necessarily is not going to be profitable. I mean, if we have a policy vision of what we want that sector to be as a society, the money is there. The money is right there in the system, you know. So we get into these the kind of debates that we get into about, you know, should we raise the budget of the CBC, lower the budget of the CBC, can West and its, you know, its fun and its problems because it was allowed to go and pay too much for properties and so on. I mean, we've created these problems, but they're not like natural problems.
I'll play devil's advocate for a bit. So, I mean, information is not like shoes, but it's not, as it were, so completely different that, I mean, one of the things that we want when we do, broadcasting or, you know, of the highest quality is we actually want it to be cast broadly. In other words, you know, that's the etymology of the term, right?
Thanks, yeah.
Yeah. Just thought I'd point that out to you. You know, we want people to watch it. And so, I worry about kind of either or models that, yeah. So you can use the profit motive sort of as you can control it. So, you know, we do things like CanCon, Canadian content. You know, we say, well, if you want to run a business that broadcasts, well, you have to have a certain percentage of Canadian content. We can imagine other things that it could do. We can imagine if you want to have a television station, you can't just, there's a certain percentage that has to be given over to information and not just sort of entertainment, imagining that we could come up with some kind of a clear distinction. So we could, as it were, it's not that we are completely beholden as a society to the profit motive. We can also use the energy that the profit motive creates in order to get people who are good at making things that people want to watch, you know, who have figured out the, but then imposing restrictions on them that will make it the case that they'll use that in order to make things that are actually kind of useful, whatever you know, that might mean. So I'm worried about giving up too quickly on the kind of variety that comes from having private broadcasters, public broadcasters of different private broadcasters of different ideological stripe. I mean, I agree completely with what was said before. You know, living in France, you can spend, or I lived in England for 4 years and spent Sundays reading five different newspapers that represented five different ideological positions. So, I mean, you know, if we lived in another country than ours, we'd be having the completely obverse discussion. We'd be talking about how do we get the media wrenched from the state, you know, which is, and its overweening power, and into some private hands that can actually do some good. Either discourse pushed to the extreme is too extreme. But I wonder whether, on the one hand, whether we don't go too far by denying ourselves the kind of energy that comes from channeling the profit motive, playing for it. It seems to me that there are other areas of the economy where it's worked, you know, not perfectly, but you know, probably better than if we completely eschewed it.
Yeah, I mean there are ways and levels at which to do that. I mean, I think one of the really interesting byproducts of the move towards commercialization in Canadian broadcasting in the last 25 years has been the creation of an independent production sector. Didn't exist 25 years ago. And now there are hundreds of small production companies, you know, animation, documentaries, entertainment. They sell to the public sector. They sell to the private sector. I mean, that's where the creative energy comes from. The creative energy does not come from CTV or Global or TVA, you know, going to the MIP Festival in Cannes or going down to Hollywood and buying the rights to American programs. No creative energy comes from that. And that's what drives these companies at the highest level, because that's where the money is to be made. That's the problem. And as for the thing about being popular, you know, the best counter example of this is the BBC. I mean, the BBC, which is as non-commercial as a broadcaster could be, although they're starting to commercialize some of their ancillary services, the BBC, which has no advertising, is entirely publicly funded, and the private sector in England pulls its hair out because they can't get the market share, the audience share of the BBC. And, you know, and yes, there is an obverse argument there. The discussion there, you know, in Canada, we say, why are we paying for the CBC and it has like 8% audience share? In England, the private sector is saying, why are we paying for the BBC when it's preventing us from, you know, from getting advertising dollars because everybody's watching their programs? So, long discussion. Okay. Pleasure. Thanks.